Marc 8, verset 34. Je pense que depuis 7 ou 8 ans, les frères et sœurs de l'Église me disent, alors, c'est dimanche prochain qu'on déménage ? Ce serait si simple de commander un camion de déménagement et de partir. Mais il fallait préparer le berceau, non ? Il fallait préparer la maison. Et puis, je le disais l'autre jour, on ne déménage pas. Hein. C'est nous qui partons, mais les meubles restent ici, les chaises restent ici. On ne déménage pas. Les enfants vont vivre ici, nous allons nous retrouver ici, en semaine, le mardi, avec les jeunes, etc. Nous gardons les églises. On a déjà assez de mal à les trouver et à les acheter. Donc, 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » On dira amen après. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, afin qu'elle ne tombe pas à côté de nous, seulement dans l'émotion, mais qu'elle tombe dans la profondeur de nos cœurs et qu'elle provoque en nous des décisions, une bonne volonté, un esprit de service, de serviteur, du courage et de la foi. Amen. Qu'est-ce que j'ai appris particulièrement pendant ces 33 ans? Je parle pour moi, là. Beaucoup de choses. Ce que j'ai appris, c'est un peu ce que je vous ai lu tout à l'heure. Un perpétuel travail de renoncement pour suivre le Christ. Il faut renoncer, il faut se décharger de beaucoup de choses pour prendre la charge de ses œuvres. C'est un travail très rude. Je le dis parce que j'ai un peu d'années. Je ne le dirais pas si j'avais 20 ans. Paul dit, nous souffrons dans les jeûnes, les veilles, les coups. Jésus dit ici, nous perdons. Celui qui perdra, en fait, il sauvera son âme. On perd. 100 000 fois, j'étais obligé de dire non, je ne peux pas. Je ne peux pas aller me promener, regarder tel spectacle, tel film, tel... Je ne peux pas, il faut savoir perdre. Mais l'œuvre que le Seigneur m'a confiée, confie aussi à l'Église, c'est une charge excellente. Amen. Amen. On travaille pour le roi des rois. Il ne faut pas, elle ne me fait pas peur, il ne faut pas avoir peur, même de recommencer des choses qu'on a mal faites, que d'autres ont démolies, avoir la culture du recommencement. Il y en a, quand on leur demande de recommencer, ils sont en colère, ils disent « j'ai perdu mon temps ». Il faut toujours recommencer. Se souvenir continuellement des frères et sœurs dans la prière, dans notre cœur, notre esprit. Se souvenir continuellement du Seigneur et de ses paroles. Mais ici, l'invitation la plus belle, c'est pas seulement de se charger de sa croix, c'est de suivre, de rester en marche, en progrès, malgré ce qui charge. Il faut se renouveler, il faut avancer, malgré tout ce qui pèse, tout ce qu'on n'a pas choisi, des situations qu'on n'a pas choisies. Il faut continuer, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours puiser dans le Seigneur courage, vigueur, vision, joie. Joie dans le deuil, joie dans les peines de la vie, les déceptions. Toujours servez l'Éternel avec joie. Continuez, si quelqu'un veut me suivre, ne jamais rester immobile. Il y a parfois des choses qui paraissent bouger, mais en fin de compte, elles ne bougent pas. L'éclipse, ça paraît bouger, mais ça ne bouge pas. Hein. C'est rien, c'est une ombre. Mais nous, il faut que nous bougions dans le sens du progrès, dans la connaissance du Seigneur. Il faut avancer. Mais je remercie le Seigneur qui nous allège notre croix, pour que nous puissions le servir. Je pense que pour le suivre, il y a deux grandes conditions. C'est écouter sa parole, qui nous donne vraiment le chemin le plus étroit, et puis l'aimer, ce qui nous fera passer par-dessus tous les obstacles. Quand on aime quelqu'un, on irait au bout du monde. Hein. Ça ne nous coûte pas. Bien sûr, ma famille me l'a dit souvent et d'autres me l'ont dit, mais enfin, tu perds ton temps. Tu perds ton temps avec des gens, pas vous, mais dans le monde, à annoncer l'évangile, des gens qui ne veulent pas. Faut-il perdre sa vie? Jésus le dit, là, au milieu d'une génération qui ne veut pas, qui n'écoute pas, adultère, pécheresse, qui refuse. Écoute, Seigneur, tu m'as dit, va et annonce ma parole. Alors, je le fais. Amen. Parce que sinon, je vais devoir rendre des comptes, même s'ils n'écoutent pas. Mais ma charge à moi, ce n'est pas de savoir s'ils vont écouter ou pas, c'est d'annoncer l'évangile. Et le livre de l'Ecclésiaste dit, tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Tu ne sais pas comment se forment les os dans le sein de la maman, les os du bébé. Tu ne sais pas tout ça. Donc, l'Ecclésiaste dit, tu ne sais pas l'œuvre que Dieu fait. Et quand je prêche l'Évangile, toujours avec joie, je ne sais pas ce que Dieu fait. Mais je sais une chose, il fait quelque chose. Assez parlé de moi. Parlons de vous. Jean chapitre 12, verset 1er. Jean 12, verset 1er. On va arriver dans une maison, parce que l'église est une maison aussi. Verset 1er, c'est quelques jours avant Pâques, Béthanie. Jean 12, verset 1er, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut rempli de l'odeur du parfum. Amen. J'arrête là. Il aimait Béthanie. Il aimait et il aime notre Église. Amen. Il aime ce lieu où il a placé une douce présence de son esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Il a placé une paix étonnante que beaucoup de gens m'ont dit en entrant dans ce lieu. Ça ne s'explique pas, il n'y a pas de raisonnement scientifique pour expliquer ça. Le Seigneur a habité ici. Pas dans les murs, dans le pupitre, il a habité en nous. Mais en habitant en nous, il s'est trouvé ici avec nous. Chaque heure passée dans ce lieu a été habitée par Jésus, a été portée par Jésus. Jésus s'est promené dans ce jardin qui est le culte ici. Pendant deux générations, quand même pas mal déjà, hein, du lieu de sa demeure, Dieu nous a observés. Il a été attentif à ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. Ça, c'est dans le psaume 33. Dieu nous a vus. Jésus aimait Béthanie. Il avait l'habitude d'aller de se reposer dans la maison de Marthe, Marie, Lazare. C'était un peu son point de chute. L'évangile dit, Marthe le reçut dans sa maison. Il y avait une place pour lui. Il pouvait se reposer, il pouvait manger, il pouvait parler, se laver les pieds. Vous pensez parfois que Jésus s'est lavé les pieds? On lui a lavé une fois les pieds avec du parfum. Il se lavait les pieds. Mais il le faisait dans des maisons où il était très, très à l'aise parce que on avait l'habitude, quand quelqu'un arrivait, de lui laver les pieds. Jésus, qui était rejeté à Jérusalem, était reçu à côté de Jérusalem dans une petite maison, Béthanie, qui avait pris position pour lui et qui l'attendait toujours. Vous attendez le Seigneur tous les jours chez vous? Nous l'attendons chaque dimanche dans ce lieu et chaque mardi. Amen. Et l'assemblée du boulevard de Metz, je pense que c'est une Béthanie pour Jésus. Je pense que Jésus est au milieu de nous. Bien sûr, sans relâche, le diable a fait beaucoup de manœuvres pour que notre service envers Jésus soit fade, plat, que notre piété, notre relation avec lui soit endormi. Il a tout fait, hein. Il a pas hésité. Il a grincé des dents contre nous, dit un psaume. Mais le Seigneur nous a délivrés. Amen. À Béthanie, c'est un peu comme ici. Il y avait l'écoute de la parole, Marie écoutait. Il y avait du travail, Marthe servait. Il y avait des petites disputes entre Marthe et Marie. Seigneur, dit à ma sœur, parce que ma sœur ne fait rien. Moi qui fais tout, comme d'habitude. Il y avait la maladie de Lazare, l'agonie, la mort de Lazare, et puis la résurrection, un festin de fête, là où Lazare est ressuscité, il est en train de souper avec Jésus. Il y avait l'offrande aussi, le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Puis il y avait des murmures aussi. Oh, à quoi bon cette perte? Le diable. Judas. Il y avait des crispations. Et puis il y avait beaucoup de monde aussi. Beaucoup de gens de Jérusalem se venaient autour de la maison pour voir Lazare qui était ressuscité des morts. Je crois que Béthanie, c'est aussi chez nous. Amen. Et nous sommes avec le grand berger des brebis. Oui, une grande multitude, dit ce texte plus loin, une grande multitude de juifs apprirent qu'il était à Béthanie et ils y vinrent pour le voir. Béthanie était une base pour Jésus, pour parler à Jérusalem. Et je pense que le boulevard de Metz a été une base pour Jésus, pour parler à beaucoup, à des milliers dans la ville de Rennes. Des milliers sont venus ici, répondant à nos invitations, à tous les 30 stands bibliques que nous faisions à l'époque sur la région, répondant aussi à la 11e heure qu'on a donnée par dizaines de milliers dans les maisons, répondant aussi aux chants dans les rues, sur la place des Lys, la place de la mairie à l'époque qu'on pouvait, répondant aussi aux émissions radio, aux conférences par West France, etc. Des milliers sont venus. À partir de Béthanie, Jérusalem venait. Le Seigneur connaît l'adresse 110 A, boulevard de Metz. Je crois. Hein. Vous savez, il savait où habitait Saul de Tarse. Hein. Il avait dit à Anania, tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite, et là tu vas trouver un nommé Saul de Tarse. Connais notre adresse. Il a presque donné le code postal. Et je pense aux gens que le Seigneur envoyait ici, qui me disaient, je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussé à venir. J'ai suivi quelqu'un qui est venu chez vous, puis je suis venu avec elle, puis je suis resté. Voilà, j'étais dans un bus, et puis quelqu'un allait chez vous, et puis je ne sais pas pourquoi, je l'ai suivi. Le Seigneur a tiré, il connaît notre adresse. 33 ans. Alors, autrefois, ici, c'était quoi ? Ben, c'était une entreprise qui réparait les machines à coudre. Singer. Il y a déjà longtemps, années 60 peut-être. Puis ensuite, ça a été, la Coffrette, c'est une exploitation thermique, c'était pour réparer les chaudières, les chauffages. Alors, on a continué, nous continuons de coudre. Que le mal a détruit, a déchiré, puis on continue de donner de la chaleur aussi. Pour ceux qui sont un peu tristes et froids. Frères et sœurs, nous, quand nous sommes arrivés ici, nous avons commencé les travaux pendant 2 années. Encore, la plupart sont encore ici avec nous. Il y avait une dizaine de poteaux ici, qui tenait l'étage au milieu de la pièce. On ne pouvait pas mettre beaucoup de chaises, on n'aurait pu en mettre qu'une quarantaine, je ne sais pas. Alors on les a enlevés. Il y avait un escalier ici qui prenait beaucoup de place. Il a fallu créer une porte, puis on s'est trompé. Il a fallu en créer une ici. Et puis on a créé des fenêtres, et puis on a créé l'entrée différente. Et puis on a fait aussi à l'étage où étaient des bureaux, on a fait les écoles du dimanche. On a travaillé très dur pendant 2 bonnes années. Et puis, on ne me l'avait pas dit, et il nous fallait payer une taxe de parking. On ne me l'a pas dit. Ni le notaire, personne ne me l'a dit. Puis quand on a acheté ici, on nous a dit, on a acheté une petite somme. Et puis, on devait en taxe de parking 3 fois plus. Je ne sais pas si vous voyez. J'étais effondré. J'ai dit, Seigneur, quelle erreur j'ai commis, je n'ai pas fait attention, on ne me l'a pas dit, je ne sais comment faire. Et une nuit, j'ai fait un songe. J'ai vu une dame que je ne voyais pas finalement, qui me conduisait. Il y avait un torrent qui était plus haut que moi, il faisait au moins 3 mètres de haut. C'est bizarre, l'eau était comme une muraille. Et puis cette dame, que je n'ai pas vue, mais je la sentais âgée, je ne sais pas pourquoi, elle m'a conduit par un petit endroit où je pouvais traverser l'obstacle. Mais cette dame, je n'ai pas pu la voir, elle est décédée avant. C'est la comtesse de Rohan-Chabot, descendant de protestants français. Elle a son château à Entrain, parce que j'ai fait des démarches avec la ville et le maire adjoint me disait « On a trouvé une solution pour votre taxe de parking. » Et la comtesse de Rohan-Chabot qui va nous vendre son parking rue Zacharie-Roussin à côté. J'ai dit « C'est peut-être elle la dame que j'ai vue. » Enfin, je ne la voyais pas finalement. Mais il y avait une dame, et c'était Madame la Comtesse de Rohan. Et puis, en fin de compte, la ville a acheté ce terrain, et elle nous l'a loué. Ça a dû nous coûter à peu près, je ne sais pas si ça nous a coûté 1 000 euros en tout pendant 10 ans. On était sauvés de la taxe de parking. Mais évidemment, j'ai voulu voir cette comtesse tout de suite, et elle était décédée quelque temps avant. Je ne la voyais pas dans mon rêve, je ne la voyais pas. Et j'étais voir ses descendants, puis je leur ai dit. Voilà, place des Lys. C'était les petits miracles du Seigneur. Pour qu'on ne s'arrête pas. On porte la croix et on continue. Frères et sœurs, soyons reconnaissants au Seigneur. C'est une qualité rare aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut aller vite, on jette tout, on n'a pas de temps, on est égoïste. Jésus a été reconnaissant. Prenez du temps à dire à l'église d'Éphèse, je connais ton travail, je connais ta souffrance, je connais tes œuvres, je connais ta constance, je connais, frères et sœurs, votre présence aussi. Il faut être reconnaissant pour les frères et sœurs. Amen. Je vais vous dire un mot maintenant, après Béthanie et la croix. Un mot dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est le mot gratitude. Acte 2, verset 41. Vous connaissez bien ce texte où nous trouvons les quatre piliers de l'Église. Parce qu'une Église, ce n'est pas simplement une association où on fait de la couture, hein, où l'on joue aux cartes. Il y a des piliers invisibles, il y a des valeurs qui font que l'Église, c'est ça, c'est l'Église. Et ces valeurs, elles sont écrites là. Enfin, tout n'est pas là, mais... Alors, ceux qui acceptèrent, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, premier pilier, dans la communion fraternelle, deuxième, dans la fraction du pain, troisième, et dans les prières, quatrième. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. C'est beau. L'Église, elle a des piliers. Elle a des valeurs qu'il ne faudra jamais, jamais enlever. Des colonnes. Et pour moi, c'est l'enseignement des apôtres, c'est la communion fraternelle, c'est la fraction du pain, ce sont les prières. Alors je voudrais, à travers cela, pour terminer, dire toute ma reconnaissance, ma gratitude à la petite équipe. On n'était pas nombreux, qui a rénové cette église au début. Ils sont toujours là. Ma gratitude pour le travail qui a été fait, qui était un travail durable, puisqu'on n'a jamais refait, par exemple, si sûrement un peu, il a sûrement vieilli, on ne se rend pas compte. C'est comme nous, on vieillit, on ne se rend pas compte. Mais on n'a jamais refait le rez-de-chaussée, tout est resté comme au début. Voilà comment l'église était il y a 33 ans. Ma gratitude envers ceux qui ont entretenu ce lieu de culte et de prière. Par le ménage, merci. Par le rangement, l'ordre. Par les travaux de réparation qui étaient nécessaires. Par l'accueil, pour qu'il y ait toujours dans l'église de l'ordre, de la bienséance, du repos. Si tout le monde courait partout, au plafond et partout, il n'y aurait plus de repos dans l'église. Nous avons été pas situés comme on l'aurait voulu. On était au fond d'une cour. À une époque, pour ceux qui étaient là, il y avait des poubelles devant l'entrée de l'église tous les dimanches matins. Il a fallu supporter. J'essaie de perfectionner la patience. Toujours. Il a fallu supporter pour ne pas créer de problème avec les voisins. On était serrés. Vous vous rappelez certains cultes, certaines occasions où on ne pouvait plus entrer. On a fait un jour des obsèques ici d'une petite fille, une jeune fille de 17 ans. L'église était pleine, les gens étaient debout, là, dans l'escalier, dans le hall, plein la cour. On n'est pas... Il n'y avait pas assez de place, bien sûr. Mais l'Église a toujours été très, très accueillante dans ses murs. Et je pense que ça, c'est un côté aussi important qu'il y ait ce côté visible qui montre notre sérieux, notre accueil. Combien de personnes, je ne les compte pas, ont été impressionnées dès l'entrée dans ce lieu. Impressionnées par qui ? Impressionnées par ce qui y règne. L'Église s'est montrée accueillante. Vous, le lieu, c'est connu dans Rennes. On me disait, oh, c'est pas grave tout ça, le principal c'est qu'on fasse des choses et puis de toute façon le Seigneur regarde au cœur. Ben justement, si le Seigneur regarde au cœur, je voudrais qu'il voie dans mon cœur que je fais tout pour sa gloire. Et je fais tout pour remercier Dieu pour sa parole qui était très, très honorable. Et il faut que le lieu aussi soit le reflet de sa parole. Dimanche, vous découvrirez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'église du Tabor. Et cette église fait parler beaucoup de nous, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est que les gens ainsi vont venir et vont écouter. Déjà près d'une centaine de nouveaux sont venus depuis le début. Amen. Amen. Je vous donne l'histoire d'un rabbin de la Lituanie. Il y avait beaucoup de juifs dans les régions de la Russie, Lituanie, Pologne, etc. Bon, ils sont tous passés au four crématoire, vous le savez. Mais ce rabbin, un jour, il pleurait. Il habitait à Karlin, en Lituanie. Il pleurait et puis ses disciples lui disaient « Mais Rabbi, pourquoi tu pleures toujours ?» Et le rabbin, il a dit « Où Dieu est le roi du monde et je n'en fais pas assez pour lui. Où Dieu n'est pas le roi du monde et c'est de ma faute. Où le Seigneur est le Seigneur de cette église et on n'en fait pas assez pour lui, non ? Et s'il n'est pas le Seigneur, c'est que c'est de notre faute. S'il n'est pas le Seigneur, c'est que c'est de notre faute. Que le Seigneur fasse de nous de bons serviteurs qui portent sa cause. Ma gratitude pour tout ce qui s'est passé dans ces murs depuis ces années, pour l'enseignement des apôtres, parce que ce sont toujours les apôtres qui nous parlent. Et vous avez persisté dans cet enseignement. Moi, j'ai dû me renouveler sans cesse, passant des heures, des nuits, à travailler la parole de Dieu. Et vous, vous avez écouté, vous avez travaillé aussi vos cœurs, vous avez mis en vie, en pratique, l'enseignement des Écritures. C'est important dans l'Église. S'il n'y a plus d'enseignement, le peuple périt. Il se raccroche à des babioles, mais il périt. Gratitude pour tous les enfants qui sont passés par centaines dans les écoles du dimanche. Amen. Et pour l'école des disciples, il y a déjà quelques années, bien sûr, on n'a pas pu continuer par les travaux. Et pendant des années, le vendredi soir, pendant 2 heures, on étudiait la Bible avec l'étage qui était bien rempli. Et puis la parole de Dieu, ben c'était cette petite feuille qu'on donnait sur le marché qui s'appelait la Bible ouverte et qui donnait la prédication du dimanche d'avant. Les gens venaient la chercher, les gens demandaient, les gens la voulaient. On a donné des dizaines de milliers. La prédication du dimanche qui était ici, elle sortait sur la place publique. Il y a M. Ralu qui était là à l'époque. Elle sortait sur la place publique parce que c'était la prédication qui devait ainsi aller au-delà des murs. Ma gratitude, frères et sœurs, pour la communion fraternelle. La simple main tendue, c'est ça la communion fraternelle. Le sourire amical, l'exemple qu'on donne par sa vie, par sa présence, sa prière, le petit coup de pouce qui encourage. Vous m'avez tous encouragé. Vous vous en êtes jamais rendu compte peut-être. Vous avez tous dit un jour ou l'autre un petit mot, vous avez fait un geste, vous avez donné une expression de votre amour et de votre sympathie et ça m'a beaucoup encouragé. Gratitude pour les pardons que nous avons échangés entre nous. qui ont ouvert les écluses du ciel. Amen. Car après, c'était plus comme avant, quand il y a le pardon. Et puis, communion fraternelle, oui, nous avons été proches les uns des autres dans les souffrances, dans les maladies, dans les deuils, dans les obsèques, mais aussi proches dans les joies. Nous avons eu beaucoup de naissances. Je ne sais pas, depuis que je suis là, on a bien eu au moins une centaine de bébés. Hein. En tous les cas, 35 en 2 ans. Alors on s'est réjoui dans les baptêmes. On s'est réjoui dans les 20 baptêmes là, qu'on a eu en fin d'année. On s'est réjoui dans les mariages, dans les bénédictions que Dieu a accordées aux uns et aux autres. Amen. On s'est réjoui des malades guéris. On s'est réjoui des enfants. On s'est réjoui des consolations. Mais l'amitié fraternelle, c'est pas fini. Hein. C'est comme un vêtement, ça s'use. Il faut toujours la réparer. C'est comme dans la famille, il faut toujours réparer la communion entre le mari, la femme, les parents, les enfants. Mais c'est ce qui nous fait grandir, justement. Si on touchait à rien, si on regardait la communion fraternelle comme un monument, ben, il ne se passerait pas grand-chose, mais on y travaille et ça la fait grandir. Amen. Ma gratitude pour la fraction du pain, c'est le signe que Jésus a choisi, un peu contesté maintenant d'ailleurs, mais c'est le signe que Jésus a choisi pour rappeler à son Église le mystère de la croix. Je voudrais remercier le Seigneur qui nous a révélé la croix, la grâce de son amour. Comme ce conte allemand, le comte de Zinzendorf, qui après s'est rallié aux Moraves et qui a été un missionnaire extraordinaire, qui a dû envoyer 100 missionnaires dans le monde. Zinzendorf, monsieur le comte, en entendant la prédication de la croix, il entend dans son cœur une voix qui lui dit « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Zinzendorf est touché, il s'effondre devant le Seigneur. Merci au Seigneur pour tous ceux qui ont été saisis par l'amour de la croix. Amen. Nous avons partagé, j'ai compté hier soir, 1700 saintes cènes. Ça fait du pain, mais ça fait beaucoup de joie et d'action de grâce. Et on a cherché le Seigneur. On cherche que ce qu'on trouve, parce que si on a trouvé le Seigneur, comme quand on trouve une épouse, un époux, on le cherche toujours. On a trouvé le Seigneur et on le cherche toujours. Seigneur de la croix, merci au Seigneur. Ma gratitude pour les prières qui ont tenu l'Église comme des piliers forts. Mais ces prières, je vais les comparer au parfum subtil de Béthanie. Vous avez vu Marie qui offre du parfum sur les pieds de Jésus. À quoi bon cette perte, dit Judas, le trésorier. Vos prières ne sont pas perdues. Vos prières ne sont pas une perte de temps. Quand on prie, Dieu fait quelque chose. Et je ne peux pas vous remercier, je ne saurais pas comment le faire. Pour toutes les prières que vous avez adressées à Dieu, pour que nous puissions rester debout, fermes, en bonne santé, en vie, pendant les travaux de l'église du Tabor. Merci pour vos prières. Amen. Amen. Devant le Seigneur, je vous exprime ma gratitude. Une fois, je le dis, Yves le sait. Monsieur, je vous en prie. J'ai failli tomber de l'échafaudage, je vous le dis. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de barre. Et puis, je me suis penché pour saisir la barre, il n'y avait plus de barre. Oh, j'ai senti que je partais. J'étais à 15 mètres, tout en haut dans le cœur. Puis je suis resté, puis je suis descendu, blanc comme un linge. Je suis parti chez moi en tremblant et en remerciant le Seigneur. Et je me dis, la main qui m'a retenu là, c'est la main des frères et sœurs de l'Église. Priez, vous avez prié, j'ai entendu vos prières et le Seigneur vous a répondu. Amen. Les prières, ça ne se mesure pas au mètre, au poids, au temps. C'est un mystère, la prière. Mystère de la foi, mystère de la, de la fidélité de Dieu. C'est ce qui a fait l'église du boulevard de Metz, de Béthanie, boulevard de Metz. C'est ce qui a fait que nous avons tenu bon, sans broncher, sans reculer, sans baisser la garde. Gratitude à chacun de vous. Les flots de la mer se soulèvent, dit le psaume 46. Vous avez vu la marée ? Elle va haut, hein ? Les flots de la mer se soulèvent, mais le Seigneur est au milieu de sa maison. Amen. Elle n'est pas ébranlée, parce qu'il y a des prières. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Je veux dire ma gratitude envers tous ceux de la première heure qui étaient là. Madame Boulmer, Christine, premier baptisé, avec vos enfants et votre mari. Premier baptisé à la première heure, novembre 82. Et puis tous ceux qui, dans le temps, ont été persévérants et jusqu'au dernier baptême, votre persévérance, votre présence ont été ma joie. Et votre présence et votre persévérance seront ma couronne quand le Seigneur viendra pour nous chercher. Amen. Merci. Et Jésus, je conclue, un jour il allait vers Emmaüs, et puis la Bible dit dans l'évangile de Luc, Jésus paraissait vouloir aller plus loin. Je ne sais pas où il va aller comme ça, le soir, il fait presque nuit là, il veut aller plus loin. Les disciples retiennent, mais lui veut aller plus loin. Et je pense que le Seigneur veut nous emmener plus loin aussi. Il veut nous emmener dans une église qui est bien ouverte, sympathique, chauffée, aérée, lumineuse, connue, vue, agréable pour ceux qui passent. Ils écoutent. Il y en a qui regardent parfois au plafond, mais enfin, ils écoutent quand même. Il nous emmène au Tabor. Remercions le Seigneur. Je voudrais citer ce verset de Michée pour conclure. Le Seigneur a fait une brèche. Michée, chapitre 2, verset 13. Le Seigneur a fait une brèche et nous allons faire aussi une brèche, une ouverture, un passage. Nous franchirons la porte. Le roi marchera devant nous et le Seigneur sera à la tête de son peuple. Dieu vous bénisse. Amen.